tranche de vie, une émission proposée par JF. Auditeurs de tranche de vie, vous savez que notre émission est consacrée à faire parler des gens de leur passion. Et je suis aujourd'hui chez quelqu'un de particulièrement passionné, Jean-Marie, qui est radio-amateur. Je suis dans ce qu'on appelle, dans le langage de son art, un shack, c'est-à-dire son atelier ou son studio, qui est bourré de matériel les plus divers, d'écrans, d'émetteurs, bien entendu, tout ça est très impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas du tout versé dans cette technique. Jean-Marie va nous en parler en faisant attention, j'espère, à ne pas être trop technique, parce que vous perdriez pied très rapidement, comme moi, mais vous allez voir que il est absolument extraordinaire de voir combien cette passion de la radio, du radioamateurisme couvre de champs et de possibilités. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous avez été pris par cette passion ?
Alors, j'ai été pris par cette passion, j'avais l'âge de 14 ans, la première fois que j'ai eu connaissance de ce hobby, et j'ai commencé à le mettre en pratique quand j'avais à peu près 22-23 ans, en m'achetant mon premier récepteur, pour lequel j'avais vendu ma voiture à l'époque, pour pouvoir m'acheter quelque chose de vraiment performant. Voilà.
Et depuis, cette passion ne vous a pas quitté. Mais est-ce que votre formation initiale vous destinait à justement embrasser cette passion ?
Ben non, pas vraiment, puisque j'étais électricien de formation, mais pour passer mon certificat d'opérateur, puisqu'il faut passer un certificat d'opérateur, voire deux même à l'époque, pour être radio-amateur, il fallait avoir des connaissances en électronique, et donc j'ai appris l'électronique par plaisir. Et puis ben ensuite, ça m'a suivi, puisque j'en ai fait ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans l'informatique, dans l'électronique médicale pendant plus de 30 ans.
Donc vous avez mené de pair votre activité professionnelle et votre passion qui était tout naturellement liée par les aspects techniques. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques aperçus sur l'évolution des techniques et puis aussi nous dire combien de personnes à peu près pratiquent ce loisir, puisqu'il faut bien appeler ça un loisir.
Alors on va commencer par la fin. Il y a environ, je crois, 15 ou 16 000 radioamateurs en France. C'est un peu en perte de vitesse par rapport aux autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Il y a énormément de Japonais. Les Américains sont, je crois, de l'ordre de presque 1 million. C'est faramineux. Et chez nous, ben, ça semble pas trop intéresser les jeunes. Pourtant, c'est un loisir qui est plein de choses nouvelles et qui a plutôt évolué au fil des temps, puisque moi, lorsque j'ai commencé, on était plutôt limité dans les moyens de communication en faisant soit de la téléphonie avec un micro, soit de la télégraphie, et c'était plutôt limité par rapport à tout ce que l'on peut faire maintenant, notamment avec l'informatique qui est venue se greffer sur la radio.
Donc une quinzaine de milliers en France sur, si j'en crois les chiffres que j'ai consultés, à peu près 3 millions de pratiquants dans le monde à l'heure actuelle, dont les deux tiers sont compris dans le Japon et les États-Unis. Donc ça fait effectivement en France une pratique qui est assez rare, assez peu répandue. Et comment expliquez-vous que les jeunes, justement, puisque cet aspect technique et les liens avec le numérique, avec l'informatique que cette technique a prise, comment expliquez-vous cette désaffection des jeunes ?
Je l'explique pas trop, mais je pense qu'il y a un manque de connaissances. Déjà, très peu de monde savent ce que c'est qu'un radioamateur. Souvent, ils disent « Ah ben, si vous faites de la CB ». Je dis « Non, je fais pas de la CB, je fais du radioamateurisme. C'est quand même différent, c'est un loisir qui est encadré, pour lequel il faut avoir des connaissances, apprendre, mais qui est ouvert à tout le monde. Il y a des gens de toute profession, de tout niveau, qui sont radioamateurs. Après, on peut évoluer au fil des temps, mais c'est vrai que je pense que les jeunes n'y viennent pas par méconnaissance. Il n'y a pas beaucoup. J'ai vu un documentaire anglais là dans la semaine là où les gens prennent dans les écoles des jeunes pour les amener justement à découvrir ce loisir.
Mais alors, quand vous parlez de CIBI, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions justement sur la distinction qu'il y a par exemple entre la CIBI et puis le radioamateurisme? Vous avez parlé d'encadrement, on va en parler plus en détail. Est-ce que la CIBI, par exemple, deux camions qui communiquent comme ça veut dire qu'il n'y a aucun encadrement?
Bah, tout à fait. La CIBI, normalement, les gens sont limités, je crois, c'est à 4 watts. 4 watts sur la bande des 27 mégas. Quand on est radioamateur, on a droit jusqu'à 500 watts en HF sur plusieurs segments de bande, sur plusieurs segments de fréquence, qui vous offrent des possibilités beaucoup plus diverses pour pouvoir trafiquer, sachant que quand vous trafiquez sur 3,5 mégas, c'est pas la même chose que sur 28 mégas et ainsi de suite. Donc on a beaucoup de bandes et on est autorisé à faire beaucoup plus de choses. Du point de vue légal, on a beaucoup plus d'ouverture.
Qu'est-ce qui limite concrètement votre activité, si vous pouvez nous le dire dans les termes les plus accessibles possibles?
Ce qui limite notre activité du point de vue échange, déjà, on n'a pas le droit de parler de politique, on n'a pas le droit de parler de religion. On doit se limiter normalement à des échanges techniques ou des échanges sur la météo qui peuvent bien sûr influencer les conditions de propagation et donc parler de choses techniques, des antennes, des émetteurs, des montages qu'on peut faire, des essais d'informatique puisque l'informatique est liée à la radio. Donc la limite, c'est ce qu'on ne doit pas dépasser. Et après, le respect de la réglementation aussi. On a une réglementation qui nous donne des limites de bande, des limites de puissance et ainsi de suite. De ne pas brouiller, par exemple, on ne doit pas brouiller. Donc voilà, c'est les limites, elles sont là, mais c'est quand même largement ouvert, disons.
Alors, la transgression, elle peut se produire, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Y a des gens qui transgressent, apparemment, ils ne sont pas tellement pénalisés, mais ce que font les autres, finalement, ça n'intéresse pas tellement les radioamateurs. Comme on dit, si les gens veulent faire trafiquer en dehors des bandes de fréquence ou autre chose, ça c'est du domaine de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui surveille les bandes et les radioamateurs ont pas leur mot à dire là-dedans, hein. Juste observateurs, mais c'est tout, hein.
Est-ce qu'il y a des niveaux, des sortes de grades qui sont reconnus officiellement dans la qualification des radioamateurs?
Alors pas en France. En France, dans le temps, on avait deux niveaux de licence à l'époque où j'ai passé, moi. Il y avait deux certificats à passer. Il y avait un certificat de radiotéléphoniste et un certificat de radiotélégraphiste. Donc il fallait d'une part avoir des connaissances sur la technique, sur la réglementation. Et en plus, on avait une épreuve de Morse qu'on passait avec un examinateur et qui vous donnait droit à ce deuxième certificat. Depuis quelques années, comme la télégraphie a été abandonnée dans beaucoup de domaines, radio maritime et autres, le certificat de radiotélégraphiste n'est plus au point. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une licence, c'est une licence unique. Mais par exemple, aux États-Unis, ils ont plusieurs niveaux de licence qui évoluent au fil de leur, si on peut dire, carrière de radio amateur.
Alors justement, vous venez de parler de Morse. J'ai lu quelque part que le Morse n'était plus utilisé, par exemple, en France. Enfin, la connaissance du Morse n'était plus exigée pour être licencié, alors qu'elle a été conservée dans d'autres pays. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça?
Je ne sais pas, le Morse a un avantage, je ne sais pas si les militaires ne pratiquent pas encore, parce que l'avantage du Morse, c'est qu'on peut faire du Morse avec des moyens très très simples. Simplement, par exemple, en faisant des étincelles, on peut communiquer simplement en faisant du bruit, par exemple. C'est un moyen très très facile, très simple de communication. De ce côté-là, il est performant. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont conservé le Morse parce que c'est un moyen performant et qui permet de communiquer avec des moyens très restreints. Quand on fait de la téléphonie, si on a une panne de micro, on ne peut plus parler. En télégraphie, il suffit d'avoir une lame de scie et deux clous, on arrive à faire un manipulateur, donc c'est beaucoup plus simple.
Là, on retrouve la technique, alors un petit peu primitive. Mais
Non, mais c'est vrai, pourtant, c'est ça.
Est-ce que maintenant vous pouvez nous donner une idée de des contacts, puisque je crois que c'est
Ouais.
le nom employé,
Ouais.
que vous avez, vous, Jean-Marie, radio amateur, dans le monde, et ce qui motive ces contacts.
Alors, les contacts actuellement, j'ai contacté 333 pays sur les 340 qu'il y a à contacter. Les pays qui manquent sont la Corée du Nord, parce qu'il n'y a pas de radio amateur. Et puis quelques îles rares comme Crozet, tout ça, où il y a, à part des pingouins, il n'y a personne. Donc il faut.
Le Yémen, on m'a dit aussi. J'ai vu que le Yémen n'avait pas, il n'y a pas
Ah,
de
je sais
radio
pas, faudra
amateur.
que
Je
je
crois
regarde, faudra
que.
que je regarde. Ça vérifie.
Mais la Corée du Nord, oui, ça se
Voilà.
comprend. Mais alors, là, vous dites 300, 340 pays, mais je croyais qu'il y en avait que 200, un petit peu
Non,
plus de
non, il y a,
200.
non, non, il y a des pays qui sont. Par exemple, Saint-Marin, par exemple, c'est compté comme une entité à part. Le Vatican, c'est une entité à part, ne serait-ce que pour donner ça. Monaco, c'est une entité à part. Donc il y a des pays comme ça. Et
D'accord.
donc c'est
Donc c'est.
actuellement le chiffre, c'est 340 pays.
Donc vous les avez tous,
Presque tous,
presque
presque
tous
tous.
contactés.
Voilà.
Et alors, comme vous le disiez tout à l'heure, essentiellement pour des échanges d'informations techniques.
Oui, des échanges d'informations techniques, mais aussi par exemple pour tester mes antennes. En ce moment, je suis en train de faire une nouvelle antenne qui n'est pas terminée et je vais essayer de voir, de comparer par rapport à celle que j'avais avant. Donc l'intérêt de mes contacts, il se situe à ce niveau-là. Il y a ici écouter ce que disent les gens. On apprend beaucoup plus à écouter qu'à parler. Donc on écoute beaucoup, passer du temps à lire et tout ça. Donc. On fait pas de la radio, c'est à longueur de temps, hein. Enfin, si on fait de la radio, on écoute beaucoup surtout, hein.
Alors ça suppose que vous ayez une maîtrise de plusieurs langues étrangères, ou bien vous écoutez uniquement les pays francophones, ou bien vous écoutez aussi, je ne sais pas moi, les radios amateurs chinois.
L'avantage de faire de la télégraphie, c'est que la télégraphie, c'est de l'anglais, et il y a surtout beaucoup d'abréviations. Donc, il y a ce qu'on appelle le code Q. C'est un code qui permet de trafiquer en télégraphie et donc ben on peut contacter tous les pays du monde et discuter avec tout le monde simplement avec le code Q et quelques mots d'anglais. Donc voilà.
Alors, ces codes, bon, ce sont des séries de lettres et de chiffres. Pour un profane, ça paraît vraiment complètement compliqué.
Ouais.
Mais bon, il y a tout un ensemble de vocabulaire spécialisé, comme ça, très curieux. Par exemple, si je m'adresse à Jean-Marie, bien, je m'adresse en termes de radio amateur à un OM.
Oui.
Et si son épouse faisait aussi de la radio, du radioamateurisme,
Elle en
elle
fait, elle en
serait,
a
elle en
fait.
fait, elle en a fait, me dit Jean-Marie, elle serait YL. Alors je traduis OM.
OM, c'est ben, c'est le propriétaire de la station, c'est le mari, et l'YL, c'est son épouse. Voilà.
Et traduisez. Alors OM, vous m'avez dit que c'était
Old
old
Man,
man,
ouais.
et YL, c'est
Enfin, je sais pas.
young lady,
Voilà,
young
c'est
lady.
ça, tout juste.
Alors j'ai vu qu'il y avait même un code pour
Ouais.
désigner précisément la femme
Ouais.
du radio amateur pratiquant elle-même le radio amateurisme. Et alors à la suite de ça, ben, vous avez tout un ensemble effectivement de lettres qui permettent d'envoyer des messages mais sous une forme extrêmement ramassée.
Oui, tout à fait, oui. Oui, on parle de QTH pour donner l'endroit où on est, on parle de QTR pour l'heure, on parle de QSB quand il y a du fading, que le signal descend et monte, et puis il y a tout un tas de choses comme ça, de code Q. Le code Q est très employé, et puis quand on se dit au revoir, on dit pas au revoir, on dit 73. 73, à bientôt, et puis voilà.
Est-ce que vous pouvez dire, pour paraphraser une affirmation célèbre, Internet m'a tué?
Non, Internet, oui, Internet, non, non, ça m'a pas tué. Moi, ça, c'était un plus par rapport à mon activité Internet. C'est-à-dire que je continue à faire de la radio toujours avec passion, et Internet m'a amené des sources de renseignements en plus et la possibilité de faire tout un tas de choses en plus, quoi. Donc voilà, ici j'ai quatre ordinateurs dans la station et Il est faux.
Voilà, ils sont tous en marche. Voilà, il y en a trois en marche sur les quatre. Effectivement, tous les écrans sont allumés et affichent alors des courbes, des cartes. Trois sur quatre, voilà, tout fonctionne. Et donc, on se croirait dans un devant un, vous savez, un bureau d'agents de change là, de traders. Ils surveillent le cours des matières premières, mais quand même, là, je parlais au singulier en disant Internet m'a tué, j'aurais dû parler au pluriel et dire Internet nous a tué. Est-ce que Internet n'a pas nui quand même à, justement, c'est avec la facilité des échanges que permet Internet, que permet la messagerie, ça n'a pas nui à l'activité des radioamateurs?
Moi, comme je conçois la radio, pas vraiment, parce que moi, je me définis comme un homme de télécommunication et pas un homme de communication. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement passionné par la communication. D'ailleurs, je fais de la télégraphie parce que c'est des modes simples où on ne raconte pas sa vie. Et donc, ce qui m'intéresse surtout dans la radio, c'est l'aspect technique de la radio. Donc, mais par rapport, par exemple, à la CB, puisque au début de l'entretien, on a parlé de CB, la CB, c'est fait pour faire de la communication. C'est-à-dire que les gens qui étaient tout seuls dans des camions aimaient pouvoir parler entre eux en se croisant et échanger. Le radioamateurisme, c'est surtout l'aspect technique qui prime.
C'est votre intérêt primordial, c'est de perfectionner vos techniques, d'en acquérir de nouvelles, et non pas de vous dire « attention, il y a un gendarme à 10 km », etc. Donc, voilà.
Les gens, d'ailleurs, nous demandent toujours « vous écoutez la police, vous écoutez les pompiers ?» Je dis « non, j'ai jamais écouté la police, jamais écouté les pompiers, ça n'a aucun intérêt, ça n'a franchement aucun intérêt.
» Oui, mais alors, ça, est-ce que ça ne tient pas à l'image que les gens se font du radio-amateurisme, une image complètement périmée qui date d'une époque où on se disait qu'avec les moyens du radio-amateurisme, on pouvait résoudre certains problèmes de communication, parce que les autres moyens de communication n'existaient pas. Alors, ça a été popularisé par des films, par la bande dessinée, et donc ça, c'était quand même une réalité.
Oui, mais à ce sujet-là, il y a des radioamateurs qui font partie de la DRASEC et qui sont mobilisés quand il y a des exercices, satères ou autre chose. Il y a des gens qui se sont penchés sur ces problèmes-là et qui sont en relation avec la préfecture. Et donc, quand il y a des exercices, ils sont mobilisés. Ils peuvent être mobilisés à n'importe quel moment du jour et de la nuit, en cas d'appel, pour aller aider et compléter les services officiels.
Parce que le cas échéant, en cas de catastrophe, par exemple, ou en cas de nécessité d'un sauvetage en mer particulièrement difficile, à ce moment-là, on peut recourir, les autorités peuvent recourir aux radioamateurs.
Oui, ah ben oui, si on est quand même à la disposition des autorités, si jamais le besoin se fait sentir. Je crois que maintenant, avec tous les satellites, toutes les liaisons, c'est de moins en moins vrai. Mais sur le plan local, par exemple, quand il y a un avion qui se crache ou un truc, des choses comme ça, ou par exemple sur des tremblements de terre où les moyens de communication locaux peuvent être abîmés, à ce moment-là, les radioamateurismes peuvent éventuellement intervenir et rendre service. Oui.
Est-ce qu'il y a une communauté des radioamateurs au niveau national, au niveau régional? Est-ce que vous avez des collègues en Dordogne avec qui vous communiquez régulièrement? Est-ce que vous en avez en France? Bien entendu, vous avez communiqué dans 343 pays, donc je pense que vous avez contacté les gens. Mais est-ce qu'il y a des associations, est-ce qu'il y a des fédérations qui connectent tout ça et qui font qu'il y ait un espèce de lien qui se crée?
Oui, en France, il existe plusieurs associations. La plus ancienne à laquelle je suis affilié, c'est le Réseau des émetteurs français, qui existe depuis 90 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, une très, très ancienne association. Et il y a des réunions deux fois par an. Je suis allé dernièrement, c'est pas vieux, la semaine dernière, il y avait une réunion sur Tours. Ça m'a permis de rencontrer un petit jeune à qui j'avais communiqué le virus de la radio. Je l'ai revu, ça faisait 40 ans qu'on ne s'était pas revu. Donc il a 53 ans maintenant, il a trois enfants, il est grand-père. On était très contents de se voir et de voir que, ben, ma foi, il avait persévéré. Et donc, voilà, c'est des bonnes rencontres.
Alors que vous ne vous étiez pas rencontré
Non,
depuis que vous l'aviez initié à la...
je savais qu'il avait continué dans la radio de façon un peu aléatoire parce qu'il avait la vie professionnelle et on s'était jamais rencontré depuis, donc voilà.
Alors, j'ai lu aussi, et vous allez peut-être me le confirmer ou me donner des précisions, qu'il y avait des compétitions de radio amateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste?
Alors les compétitions appelées contests, ce sont des compétitions qui peuvent durer jusqu'à 48 heures, où les gens vont chercher à établir le plus grand nombre de contacts possible, soit des contacts, soit avec ça va leur donner des points par contact, et également éventuellement selon les concours des points avec la distance. Donc ils vont faire un nombre de contacts très important. Ça va être sur 48 heures plusieurs milliers de liaisons à peu près. Voilà. Mais c'est moi ça me passionne pas trop, mais bon. Je laisse.
C'est une occasion de créer du lien entre les radios
Oui, mais
amateurs.
c'est très rapide. Hein. Les
Ouais.
contacts, c'est l'ordre de quelques secondes.
Ah
Hein. Ah oui,
oui, il
c'est.
suffit d'établir le contact et puis
Voilà, tout à fait.
d'avoir la
Oui,
preuve qu'il a été établi, j'imagine. Voilà.
exactement. Oui.
Mais c'est quand même intéressant ça. Mais alors, j'ai encore, moi, on pourrait parler des heures avec Jean-Marie, mais je voudrais encore lui demander quelque chose. Est-ce que le fait de communiquer comme ça avec le monde entier implique pour vous des horaires particuliers, une espèce de discipline du temps qui fait que quelquefois vous vous levez au milieu de la nuit ou bien vous couchez très tard?
Non, ça m'a fait pas vraiment fait. Maintenant, ça me fait pas lever la nuit, mais j'avoue que par exemple le matin, j'aime bien me lever de bonne heure parce que y a des gens à l'autre bout du monde qui sont plus faciles à contacter à certaines heures qu'à d'autres. Hein. Pour contacter les Japonais, il vaut mieux se lever le matin à 5 heures qu'à 10 heures parce qu'après ça commence à fermer. Puis pour les Américains, c'est un peu le contraire. Donc voilà, il y a des contraintes. Mais sinon, on n'est pas limité du point de vue horaire. On peut trafiquer 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans problème.
À condition que vos contacts soient aussi réveillés, bien entendu.
Ah voilà, mais l'avantage de la radio, c'est qu'à une époque, j'étais insomniaque, que je me levais à 2 heures du matin. Il y a toujours quelqu'un au
Quelqu'un
bout
pour
du
vous.
fil, au bout de l'antenne.
Alors, cette passion-là que vous exercez, est-ce que vous avez des personnes à qui vous pouvez encore la transmettre? Est-ce que vous avez des contacts avec des jeunes qui sont intéressés par ça, ou avec des associations qui encadrent des jeunes et qui voudraient s'initier à cette technique.
Ben non, malheureusement non, je vois pas beaucoup de jeunes. Et la dernière réunion où je suis allé, c'est assez décevant, mais il n'y a pas tellement de jeunes. Hein. Il n'y a pas tellement de jeunes. Je pense que c'est un peu une méconnaissance. Je crois qu'ils n'ont pas le petit compte-rendu que la petite vidéo que j'ai fait là, que les Anglais avaient fait, là, ils montraient des jeunes qui étaient avec leur tablette, les autres qui étaient affalés dans le canapé. Et puis il y en avait qui l'avaient amené vers la radio et qui avaient l'air de se passionner à faire des montages, des essais, des tests. Ça marche, ça marche pas, mais enfin c'est. Donc je pense que c'est peut-être une méconnaissance des jeunes qui fait que ça ne les pousse pas. Alors après, il y a l'examen aussi. Maintenant, comme il n'y a plus qu'une sorte d'examen, avant il y avait un examen novice qui était un accès très facile. Il fallait connaître un peu de enfin, la réglementation. Très peu de technique et ça permettait aux jeunes de venir. Maintenant, ben ça, l'examen est nettement plus difficile puisqu'il n'y a plus qu'un examen, donc le niveau technique est plus élevé et donc je pense que ça en rebute certains. Alors peut-être que certains vont faire de la CB ou font des trafiqués hors bande, je sais pas, mais le
Oui,
truc
alors
est
bah
comme ça.
j'imagine que c'est aussi, ouais, effectivement, comme vous disiez, une question d'information, puisque
Oui, je crois
en
que.
dehors du fait de l'aspect un peu rébarbatif ou dissuasif de l'examen, il y a quand même tout un ensemble de connaissances techniques à avoir en électricité, en électronique, que tout le monde n'est peut-être pas prêt à acquérir, hein, sauf à
Oui,
être vraiment déjà de la partie comme vous l'avez été à vos débuts.
mais à la limite, maintenant, c'est presque plus facile parce que maintenant, l'examen, on connaît l'encadrement des questions qui peuvent être posées. On connaît les questions, on connaît pas les questions, mais on connaît, c'est très, très, très
Le
limité,
domaine,
oui, le domaine. Alors qu'à l'époque où moi j'ai passé mon certificat, l'examinateur venait à la maison. Et là, il n'y avait pas, il pouvait poser les questions qu'il voulait. Hein. Au niveau technique, il n'y avait pas de limite. Donc, à la limite, je crois que c'était peut-être pas plus facile à cette époque-là que maintenant, où on peut bachoter les sujets qui risquent d'être posés. Donc c'est plus du bachotage, mais bon, il faut s'y tenir, quoi. Hein. C'est comme pour apprendre la télégraphie, ça vient pas tout seul.
Encore une fois, on pourrait rester des heures avec Jean-Marie, mais il y a encore une chose qui m'intrigue, moi, c'est l'importance des numériques, des radioamateurs au Japon. Alors, est-ce que c'est allié à l'avance technique, technologique des Japonais en matière d'électronique, ou bien est-ce que c'est lié à autre chose qui dépend de la culture japonaise?
Ouais, mais je pense qu'il y a ça, oui. Il y a le fait ben, qu'ils sont déjà, du point de vue technologie, il y a beaucoup de l'électronique, il y en a beaucoup au Japon. Et puis peut-être qu'ils sont curieux, ils sont peut-être curieux et peut-être plus dynamiques aussi, je pense. Ils sont peut-être moins dans le canapé ou devant la tablette le soir, je ne sais pas. Je ne sais pas trop l'expliquer, hein. Il faudrait que j'aille au Japon pour leur demander.
Oui, mais moi je pense qu'il faudra que vous le fassiez. Je pense que là vous verriez encore, vous trouveriez encore des matériels très sophistiqués pour compléter votre arsenal, là qui est déjà très impressionnant. Et en tout cas, Jean-Marie, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté et je vous souhaite de
Vous
continuer
inquiétez pas, on va faire un
à
petit circuit
exercer
de télégraphie pour le
votre
final.
passion, et Jean-Marie est en train de nous préparer là à une petite
73.
Voilà une petite conclusion sonore qu'il est capable de
À l'oreille.
à l'oreille de capter et
Oui.
de
À l'oreille, on décode à l'oreille.
voilà. Et là, vous
Là, il a dit
avez capté.
73. Après, comme on parlait, comme je regardais, j'ai pas fait très
Oui.
attention, mais il faut être quand même un peu concentré. Sinon, mais après, des fois, quand je fais quelque chose, je dis, ah, tiens, il y a ça qui passe. J'arrive à décoder. Oui, à l'oreille, oui, tout à fait. On prend pas de notes, bon, on gribouille des petites choses.
Alors, on prend de la sténo, du
Oui,
morse
c'est
en
un peu
sténo.
ça, oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, c'est un peu. Des fois, j'ai même du mal à me relire.
Bon, alors, merci encore Jean-Marie, et puis j'espère que vous continuerez à avoir de fructueux
Oui,
contacts
s'il y a des jeunes qui sont
dans le
intéressés, ils
monde.
peuvent toujours prendre
Et
contact avec la
Jean-Marie,
radio, et
voilà,
puis.
Jean-Marie invite les jeunes qui seraient intéressés à venir le visiter, se rendre compte de ce qu'il fait, à le faire, parce qu'il sera ravi de leur expliquer plus en détail et peut-être d'une manière encore plus technique s'ils sont déjà un petit peu initiés à ce qu'il fait.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.